Arbre de vie. À partir des textes bibliques qui évoquent les arbres, découvrez ce qu'ils disent de Dieu, du monde et de la condition humaine. Arbre de vie, une réflexion spirituelle et environnementale proposée par Ivar Dorel.
Dans le jardin d'Éden, au milieu du jardin, tout près de l'arbre de vie, un autre arbre semble s'enrouler autour du premier comme une liane. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance est une belle chose. Elle caractérise l'humain, capable d'apprendre, de nommer les êtres qui l'entourent, de s'émerveiller de la beauté de la création. Et pourtant, un drame se joue face à cet arbre, dans ce jardin offert aux hommes. C'est le drame de l'humanité qui est ici présenté. Yahvé dit à Adam, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » C'est le drame de l'homme confronté à ses responsabilités. Manger un fruit, c'est se saisir de l'objet et se l'approprier, s'accaparer, l'usufruit pour soi. Détourner la connaissance à son profit, c'est entrer dans le cycle de la domination, de l'exploitation et du mensonge. Ce fruit dérobé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal raconte l'histoire de l'humanité et éclaire aussi notre actualité. Oui, il y a une origine profonde au malheur du monde. Ce n'est pas une histoire de nos ancêtres, c'est une histoire qui se répète depuis que l'homme a l'intelligence des choses et qu'il a reçu la liberté de choisir. La volonté de puissance, l'esprit de domination, l'appropriation des pouvoirs guident les conquêtes romaines de Jules César, animent les guerres napoléoniennes et conduisent à l'horreur nazie. Mais c'est aussi la catastrophe climatique de ce siècle et l'effondrement de la biodiversité. Lorsque le grand prêtre Caïphe condamne Jésus, il sait ce qu'il fait. Il connaît le bien et le mal, c'est un docteur de la loi. Mais pour protéger son autorité, pour sauver le peuple, comme il le dit lui-même, il décide de mettre à mort le Christ, Jésus. En s'appropriant pour lui-même la connaissance de la loi de Moïse, il engendre le drame de la passion.
Arbre de vie, Ivar Dourel.
L'histoire de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, de ce fruit défendu, parce qu'elle conduit au drame, elle n'a pas fini de nous interroger. Ce drame est toujours d'actualité. Oui, il y a une origine au malheur du monde. La guerre, comme la déforestation, sont le fruit de volonté de puissance. Utiliser la connaissance à son profit et détourner le droit à son avantage ruine toute solidarité et met en danger la maison commune. Rejoignons Francis Allais, ce botaniste, amoureux des arbres, qui sait combien on peut apprendre de l'arbre. Apprendre la patience, le désintéressement, la résilience. Entre le végétal et l'animal, les convergences et les différences.
Ces deux grandes formes de vie de la planète, plantes et animaux, c'est pas les seules, mais enfin c'est les deux principales. Elles ont beaucoup en commun. La cellule, le noyau, le code génétique, l'ADN, et puis tous les phénomènes de sexualité, les cellules sexuelles, la fécondation, l'œuf, tout ça, c'est exactement pareil. Enfin, non, c'est pareil. Donc on va plutôt insister sur les différences.
Mais oui.
Ça me fait toujours penser à la phrase de Francis Ponge. Bon, les animaux, c'est l'oral, les plantes, c'est l'écrit. Les animaux, ça vole, quoi. C'est l'oral, c'est des paroles. Tandis que les plantes, elles seront toujours là le lendemain. C'est d'ailleurs une des raisons qui font qu'on les étudie moins. On sait qu'il n'y a pas de problème. Elles ne sauveront pas, elles seront encore là demain. Voilà. Il faut comprendre que c'est la mobilité qui impose une vie limitée. Tout ce qui est mobile a forcément une vie limitée. Et par contre, les êtres vivants immobiles, comme les plantes ou comme les coraux, ça, c'est des durées de vie illimitées. Parmi les énormes différences, il y a le fait que la plante capte l'énergie par sa surface. J'ai expliqué déjà pourquoi elle avait une si grande surface. Comme le flux d'énergie n'est pas très fort, il faut que le capteur soit énorme. Nous, c'est très différent. L'animal mobile, il faut qu'il aille au-devant de sa nourriture. Il faut qu'il se déplace. C'est pour ça qu'il a un avant et un arrière. C'est pour ça qu'il a une petite surface aussi. S'il avait une grande surface, il ne pourrait pas se déplacer. Il y aurait un problème de fardage, comme disent les marins. Donc il a une petite surface, un avant, un arrière, et il se nourrit comme ça en s'arrangeant pour que la nourriture lui devienne accessible. Ce n'est pas du tout le problème de la plante. Vous avez attiré l'attention sur l'immobilité. Ok, partons du principe que les plantes sont immobiles. Mais comment vous faites pour échapper à vos prédateurs si vous êtes immobile ? En plus, vous attirez l'attention, vous suscitez des convoitises, puisque les plantes ont des tissus comestibles. C'est un problème considérable. Hein. Alors, il y a plusieurs astuces. D'abord, elles n'ont pas d'organes vitaux. Ça me paraît très important. Un animal, vous prenez un taureau, par exemple, dans l'arène, vous prenez une épée, vous atteignez le cœur, terminé. Cet animal-là, il a un organe vital. Il n'y a pas ça chez les plantes. Vous coupez une partie de la plante, mais le reste, ça va. Il n'y a pas d'organes vitaux. Donc, c'est une bonne défense contre les prédateurs. Le prédateur ne peut pas le tuer. Une autre défense contre les prédateurs, c'est que la plante pousse tout le temps. Attendez, elle ne pousse pas en hiver, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'elle pousse toute sa vie. Nous autres, on a une période de croissance au début de notre existence. Et puis après, on continue à vivre sans s'accroître. Les plantes, c'est pas ça. Elles poussent vraiment depuis la fécondation jusqu'à l'extrémité de leur vie. Elles n'arrêtent pas de pousser. Ça aussi, c'est une défense contre la prédation. Parce que si le prédateur en prend un petit morceau, eh bien la croissance continue et le petit morceau va être régénéré, refait. Je continue sur le fait d'être immobile. Ça demande de repenser toute l'existence. Regardez le domaine de la sexualité. Comment est-ce qu'on fait quand les partenaires sexuels sont immobiles et parfois fixés à plusieurs kilomètres l'un de l'autre ? Attendez, ce n'est pas une situation que je souhaite à qui que ce soit, hein, dans le domaine de l'être humain. Et pourtant, les plantes, il faut bien qu'elles fassent ça, qu'elles se débrouillent comme ça. Alors, très astucieusement, comme il leur faut un vecteur pour véhiculer leurs cellules sexuelles d'un partenaire à l'autre, elles embauchent les animaux. Elles embauchent ce qui est capable de se mouvoir. Elles peuvent embaucher le vent, qui est aussi un flux. Mais le plus souvent, elles embauchent l'animal. Là, il se produit quelque chose de très curieux. C'est que la plante n'a pas de cerveau, on est bien d'accord. L'animal, lui, il est censé en avoir un. Mais ce que je trouve très amusant, c'est que la plante, elle le roule dans la farine, le pauvre animal. Elle l'attire pour polliniser ses fleurs. Elle l'attire par une récompense alimentaire qui est dans la fleur. L'animal, il a toujours faim, il vient. Il vient parce que la fleur est belle, parce qu'elle sent bon. Et puis, très rapidement, il comprend le message. C'est pas compliqué, viens ici, il y a à manger. Donc il vient. Qu'il transporte les cellules sexuelles, ça, il le fait à son insu. C'est pas du tout pour ça qu'il est venu.
Un extrait d'une interview de Francis Allais sur France Culture en 2010. L'unité du vivant et sa diversité incroyable sont notre chance. Saurons-nous être responsables vis-à-vis de ce monde pour maintenant et les générations futures ? Quand saint Augustin développe la notion de péché originel, d'une certaine façon, il renouvelle un appel. L'appel à construire le royaume annoncé par Jésus, se libérer des logiques de domination, d'exploitation, d'accaparement. Heureux les doux, heureux les artisans de paix, heureux les affamés et assoiffés de justice. Qui perd la terre, perd son âme, titré un des derniers livres de Bruno Latour. Peut-on gagner le ciel si on détruit la terre ? Oui, prenons soin du vivant. Bonne semaine.